Bonjour à tous et toutes, ravi d'être là. Donc, je suis Sylvain Pellerin, directeur de recherche à INRAE. Mon domaine de recherche est la nutrition des plantes. J'ai notamment beaucoup travaillé sur l'élément phosphore. Et puis, ces recherches, elles se sont progressivement élargies à l'étude des cycles du carbone, de l'azote, du phosphore en agriculture. Et j'ai animé un réseau sur les questions de fertilisation. Donc on est là pour parler d'engrais. Donc quelques mots d'abord pour rappeler pourquoi on en utilise, hein. Comme vous le savez, les engrais, ils apportent aux plantes les éléments minéraux dont elles ont besoin. Les plantes ont besoin d'azote, elles ont besoin de phosphore, elles ont besoin de potassium. L'azote leur permet notamment de fabriquer des acides aminés, puis des protéines. Le phosphore, c'est un élément qui intervient dans des molécules clés comme l'ADN ou les ATP. Alors, ces éléments minéraux, ils sont prélevés dans le sol par les racines. Alors, il y a une exception, c'est une famille de plantes dont on reparlera plus tard, les légumineuses. Comme le soja, le pois, le trèfle ou la luzerne, qui sont, elles, capables d'utiliser l'azote de l'air, N2, puisque notre atmosphère contient de l'azote à l'état gazeux. Et les légumineuses peuvent utiliser cet azote grâce à une bactérie qu'elles hébergent dans leurs racines. Donc, on n'a pas besoin d'apporter d'engrais azoté sur ces plantes-là. Alors, le sol, il fournit de l'azote, du phosphore, du potassium aux plantes, mais en général, cette offre du sol, elle ne suffit pas pour obtenir des rendements élevés, et c'est pour ça qu'on complète cette offre du sol par des apports d'engrais. Alors, on distingue classiquement les engrais organiques, comme les fumiers, les lisiers, qui sont produits par les élevages. Donc, ces engrais organiques contiennent de l'azote, du phosphore, du potassium. Ce sont d'excellents engrais et à juste titre, on les utilise en agriculture comme fertilisant. Mais on utilise aussi une deuxième catégorie d'engrais qui sont les engrais qu'on appelle minéraux ou de synthèse qui sont fabriqués par l'industrie des engrais et qui utilisent des procédés chimiques pour leur fabrication. Alors c'est le cas des engrais azotés, hein, l'ammoniac, formule chimique NH3, qui est à la base de tous les engrais azotés de synthèse, il est fabriqué à partir de l'azote de l'air, N2, dont on a déjà parlé, on a en quantité quasi illimitée, et de gaz, CH4. Et donc, il y a une réaction chimique, avec ce gaz et cet azote de l'air, permet la production d'ammoniac. C'est le procédé Haber-Bosch. Alors, un souci avec cette synthèse d'ammoniac, c'est qu'elle utilise de grosses quantités d'énergie, hein, puisque pour que la réaction se produise, il faut monter à des très hautes pressions, 150 à 300 bars, et des très hautes températures, 400 à 500 degrés. Et donc, cette énergie nécessaire pour produire ces engrais, elle est apportée par le gaz. Et c'est pour ça que le prix des engrais azotés, il suit de très près le prix de l'énergie. Et c'est aussi pour cette raison qu'au niveau mondial, la production des engrais azotés, elle s'est beaucoup déplacée vers les pays détenteurs de réserves de gaz, comme la Russie ou les pays du Moyen-Orient. Alors actuellement, la France, elle importe un peu moins de la moitié de ces engrais azotés. Et ceux qu'on fabrique encore chez nous, de toute façon, il faut importer du gaz pour les fabriquer. Alors, il subsiste quelques sites de production en France, par exemple l'usine Yara à Grand-Quevilly, près de Rouen, mais la production française, elle est devenue moins compétitive du fait de l'augmentation du prix du gaz suite à la guerre en Ukraine. Alors, il y a un projet visant à produire des engrais azotés bas carbone, avec la construction d'une usine dans la Somme, hein, c'est le projet FertiHy, dont la mise en service est prévue en 2030, qui vise une production de 500 000 tonnes par an. Alors l'idée, c'est de produire un engrais azoté de synthèse, mais vert, c'est-à-dire utilisant l'hydrogène produit par hydrolyse de l'eau à la place du gaz. pour synthétiser l'ammoniac et d'utiliser comme source d'énergie l'électricité, une électricité décarbonée issue du nucléaire ou des renouvelables. Voilà, alors ce projet, il devrait voir le jour en 2030. Alors pour les autres éléments, hein, phosphore, potassium notamment, le procédé de fabrication des engrais, il est très différent parce que ces engrais, ils sont fabriqués à partir de roches qui sont extraites de mines. Alors pour autant, il y a quand même des soucis parce que le phosphore, les réserves géologiques, elles ne sont pas inépuisables et puis elles sont concentrées dans quelques pays seulement. Le Maroc, notamment, détient plus de la moitié des réserves mondiales. Ensuite, on a la Chine, l'Algérie, la Syrie. Mais en tout cas, l'Union européenne n'a pas quasiment pas de réserves en phosphore et donc nous sommes à 100% dépendants d'importation. Alors, on a parlé de la production. Maintenant, en termes de consommation, hein, au niveau mondial, l'utilisation des engrais est toujours à la hausse, du fait notamment de la demande de l'Asie et en particulier de la Chine. En France, la consommation, elle a beaucoup augmenté pendant la période d'intensification de l'agriculture, c'est-à-dire entre l'après-guerre jusque dans les années 90, et depuis, elle diminue. La consommation d'engrais phosphatés et potassiques, elle a été divisée par 4 grâce au progrès de la fertilisation raisonnée auquel INRAE a contribué. Elle a aussi diminué pour les engrais azotés d'environ moins 30% hein, depuis le pic des années 90, mais la baisse est beaucoup moins rapide que pour le phosphore et le potassium. C'est lié au fait que dès qu'une plante manque d'azote, ça se traduit rapidement par une baisse de rendement et donc les agriculteurs sont très prudents avant de réduire l'usage de l'engrais azoté. Donc actuellement, on consomme en France de l'ordre de 1,9 million de tonnes d'azote par an. Alors ça fait plusieurs dizaines d'années hein, que INRAE travaille sur la réduction de l'usage des engrais parce que leur usage, s'il est excessif, a des effets négatifs sur l'environnement. Hein, ce n'est pas l'engrais qui est mauvais, c'est son usage excessif qui pose des problèmes de contamination des eaux par les nitrates, de volatilisation ammoniacale et d'altération de la qualité de l'air, et puis plus récemment d'émission de protoxyde d'azote, qui est un gaz à effet de serre. Les engrais, c'est aussi un poste de charge important pour les agriculteurs. Et puis, encore plus récemment, évidemment, on se soucie de cette dépendance aux engrais vis-à-vis de notre souveraineté alimentaire. Donc, il y a eu des progrès réalisés. Il y a encore des progrès possibles hein, pour réduire notre dépendance aux engrais azotés de synthèse. Donc, Guy va les évoquer. Après moi, ce que j'ajoute pour finir, hein, c'est que même si on peut encore réduire leur usage, sans passer totalement, c'est plus difficile. Dans une étude qu'on a conduite à INRAE, on a montré par exemple qu'un passage de 100% de l'agriculture mondiale à la bio, bon, c'est très théorique, mais 100% de l'agriculture mondiale qui passerait en bio, donc qui n'utiliserait plus d'engrais de synthèse, puisque le cahier des charges bio l'interdit, ça conduirait quand même à une baisse de la production alimentaire de 34% au niveau mondial, qui est explicable aux trois quarts par une déficience en azote. Voilà, je m'arrête là et je laisse la parole à Guy.
Ok, merci beaucoup Sylvain. Donc Guy Richard, je suis également directeur de recherche à INRAE, plutôt de formation agronomique également. Et aujourd'hui, je m'occupe des questions d'expertise et de prospective au centre-siège à Paris. Pour pas vous inonder de chiffres, je vous propose d'en retenir un seul. Je vais vous donner un seul chiffre et trois lettres. Donc voilà, mon exposé il va être assez simple pour cela. Donc le chiffre, c'est 2/3. En effet, aujourd'hui, il faut bien avoir conscience que les 2/3 de l'azote utilisé dans l'agriculture au niveau européen proviennent d'importations, comme l'a dit Sylvain, soit d'engrais azotés, mais également, on y reviendra, de tourteaux de soja pour l'alimentation animale. Donc 2/3 d'importations. Les deux tiers, finalement, de cet azote aujourd'hui utilisé dans l'agriculture sont à destination de l'alimentation des animaux, des élevages. C'est vraiment important d'avoir ça. Et enfin, deux tiers, c'est en gros, comme l'a évoqué Sylvain, la quantité d'azote qui chaque année est perdue dans l'environnement, vers l'atmosphère ou vers l'hydrosphère. Donc voilà, ce chiffre de deux tiers me semble très important. Et ensuite, pour évoquer les alternatives, je vous propose de retenir trois lettres, E, S et R. E pour efficience, S pour substitution et R pour reconception. Si vous voulez, c'est les trois niveaux de façon de penser les alternatives que l'on a à notre disposition. Efficience, c'est-à-dire qu'on va chercher, si vous voulez, à ajuster la dose au plus près des besoins des plantes. Donc, et essayer de les réduire. C'est ce qu'on appelle l'agriculture de précision. C'est la bonne dose au bon moment et au bon endroit. Et ça passe par des équipements, des outils de calcul de la fertilisation. Mais si vous voulez, comme l'a évoqué Sylvain, beaucoup de progrès a déjà été fait et les marges de manœuvre sont très faibles. C'est la même chose pour les questions de réduction des besoins des plantes en azote au travers de l'amélioration variétale. On ne pense pas que les gains soient très importants de ce côté-là. Deuxième aspect, c'est le S, c'est la substitution. Et là, il s'agit, comme l'a évoqué Sylvain, de substituer les engrais minéraux de synthèse par les engrais organiques. Mais de nouveau, beaucoup de choses ont été faites. Ces engrais organiques proviennent principalement des animaux d'élevage. Et l'ensemble des effluents d'élevage sont aujourd'hui utilisés en France et en Europe. Donc on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Il en reste un petit peu du côté des déchets verts urbains, qui pourraient être probablement mieux utilisés. Et également, du côté des urines humaines, il y a des projets aujourd'hui qui visent à récupérer ces urines humaines, notamment dans des zones de très forte concentration, typiquement lors des matchs du rugby au Stade de France. Là, on pourrait faire quelque chose. Et puis les valoriser en agriculture, si vous voulez. Mais vous voyez que là encore, ça ne suffira pas pour réellement, si vous voulez, augmenter notre indépendance aux questions azotées. Si bien que la principale alternative, donc, elle passe par une reconception de notre agriculture. Et comme l'a déjà évoqué Sylvain, ça passe par un développement des cultures de légumineuses, puisque c'est la seule culture pour lesquelles, enfin, c'est les seules cultures pour lesquelles on n'a pas besoin d'apporter de l'engrais azoté. Donc, elles se nourrissent, si vous voulez, toutes seules à partir de l'azote de l'air. C'est vraiment très, très intéressant. Et donc, elles sont de deux natures, soit des légumineuses à graines pour l'alimentation humaine, typiquement les lentilles, pour l'alimentation animale, typiquement le soja et les tourteaux de soja, soit elles sont des légumineuses fourragères, typiquement le trèfle ou la luzerne que l'on retrouve cultivée en France. Donc ça, c'est vraiment si vous voulez, le levier que l'on a à notre disposition. Mais pour cela, il faut vraiment transformer la production agricole. C'est-à-dire que ces cultures, elles sont moins productives que les céréales, notamment, puisque ça leur coûte de fixer l'azote de l'air. Si bien que pour pouvoir les utiliser pleinement, il faut revoir la part de la surface cultivée dédiée à l'alimentation des animaux d'élevage, et il faut vraiment privilégier les aliments. Une alimentation à base de prairies et de fourrage contenant des légumineuses, c'est vraiment important. Il faut revoir la répartition géographique des cultures et des élevages pour promouvoir, si vous voulez, les formes de polyculture élevage sur le territoire national, ce qui pose des problèmes économiques par ailleurs, mais c'est vraiment la solution. Et enfin, si vous voulez, si on ne fait que cela, on risque d'augmenter les importations de produits animaux notamment. Donc il faut absolument rééquilibrer les régimes alimentaires en termes d'aliments d'origine végétale et d'aliments d'origine animale. Il faut absolument rendre cohérentes les politiques agricoles et les politiques alimentaires. Et si on va dans cette direction-là, ce qui est très intéressant, c'est que non seulement on va accroître notre souveraineté vis-à-vis des importations d'azote, mais du fait, si vous voulez, que ces légumineuses ont un moindre impact sur l'environnement, on va également réduire l'impact de l'agriculture sur l'environnement au travers des différentes formes de pollution azotée. Voilà ce que je voulais vous dire en termes d'alternatives. Merci, Cécile.